Des policiers du Connecticut croient qu'une femme disparue a en fait été assassinée. Mais comment pourront-ils le prouver s'ils ne retrouvent pas son corps? Après 14 ans de recherche, on retrouve un squelette dans un puits. Les experts auront-ils assez d'indices pour reconstituer les événements? L'enquête entourant l'homicide d'un homme est bloquée, mais le mystère est résolu lors du décès de son père. Depuis toujours, les meurtriers ont voulu cacher les corps de leurs victimes pour éviter d'être inculpés. Désormais, les sciences de la criminalistique peuvent défaire les tissus de mensonges de ces criminels et rendre justice même en l'absence du corps du délit. Le cadavre d'une victime est généralement le premier indice important lors de l'enquête d'un homicide. Mais sans le corps, comment capturer le meurtrier? Comment même prouver qu'un meurtre a été commis? En novembre 1986, la police d'État du Connecticut était aux prises avec ce problème. Dans la ville paisible de Newton, Helle Craft, une hôtesse de l'air de 38 ans, avait disparu. Elle avait laissé derrière elle son mari, Richard, et leurs trois enfants. La disparition de Helle ne surprit pas Richard d'outre mesure, puisqu'elle avait demandé le divorce quand elle avait découvert qu'il avait une maîtresse. Mary Thomas, la gouvernante de la famille, était quant à elle très inquiète. Elle avait commencé à avoir des soupçons en découvrant des taches sur la moquette près du lit, du côté où dormait Helle. Elle téléphona à la meilleure amie de Helle qui, à son tour, appela son avocat. Selon le détective de la police d'État, Joseph DeStefano, Helle se croyait en danger de mort.
Helle avait dit à son avocat que si jamais elle disparaissait ou qu'il lui arrivait quoi que ce soit de bizarre, de ne pas présumer qu'il s'agissait d'un simple concours de circonstances. Selon elle, cela signifiait que quelque chose d'anormal s'était produit et qu'il fallait faire enquête. Comme elle l'a prédit, elle a disparu.
Les policiers interrogèrent Richard Craft. Même si sa relation avec Helle était tumultueuse, il n'avait rien d'un criminel. Il était pilote de ligne. De plus, il était agent de la paix, il avait donc fait serment de faire respecter la loi. Mais en interrogeant les amis de Helle, les enquêteurs commencèrent à avoir des soupçons à son égard.
Lorsqu'on a demandé à Richard où, à son avis, se trouvait Helle, il a donné de nombreuses réponses. Il a d'abord dit qu'elle était chez sa mère, et puis il a dit qu'elle était allée voir sa sœur, avant de nous dire qu'il l'ignorait. Cela ne correspondait pas aux réponses qu'on obtient en général d'un mari dont la femme vient de disparaître. Cela a commencé à semer des doutes dans notre esprit.
Les policiers disposaient maintenant d'assez d'informations pour obtenir un mandat de perquisition. Ils ignoraient cependant encore s'ils avaient affaire à un homicide.
Nous n'avions pas de réponse, que des questions.
Les enquêteurs espéraient que la chambre à coucher des Craft fournirait des pistes. Quand ils disposèrent enfin du mandat de perquisition, ils constatèrent que la chambre était vide. Craft se justifia en déclarant qu'il avait décidé de changer la moquette. Tentait-il de dissimuler des indices? Richard Craft partit alors en Floride pour la période des fêtes. Il avait plus d'une longueur d'avance sur les policiers. Quelque chose s'était produit dans cette chambre, mais il fallait espérer que le suspect n'avait pas éliminé tous les indices. Certains des meubles avaient été temporairement placés au sous-sol. Avant de commencer leur examen, les enquêteurs appelèrent une amie de Helle afin qu'elle leur décrive la disposition des meubles dans la chambre. Une fois les meubles remis en place, l'équipe d'experts remarqua des taches de sang sur le côté du matelas. On fit appel à l'expert Henry Lee pour interpréter les éclaboussures de sang.
En général, lorsqu'on frappe quelqu'un une seule fois, il n'y a pas d'éclaboussure. Le sang afflue autour de la blessure. C'est la deuxième fois qu'on assène le cou qu'il se produit des éclaboussures de sang.
En examinant la grosseur des taches et l'endroit où elles avaient abouti, Lee put déterminer que le sang avait été projeté à une vitesse moyenne. Cela donnait certaines indications sur l'arme du crime.
Il devait s'agir d'un objet contondant, mais il était impossible de savoir s'il s'agissait d'un marteau, d'une hache ou d'une lampe de poche. Cela pouvait être n'importe lequel de ces objets.
Une chose était certaine, un meurtre avait bien été commis dans cette chambre. La pâle tache de sang découverte sur le matelas avait été suffisante pour ouvrir une enquête pour homicide. Les policiers avaient maintenant le sentiment que Haley était morte et que Richard Crafts, son mari, l'avait tuée. Cependant, la preuve était bien mince. Il faudrait en trouver des plus convaincantes. Si Haley avait été tuée, où donc se trouvait son corps? Il fallait pousser l'enquête un peu plus loin.
La prochaine étape de l'enquête consistait à examiner la série de documents que nous avions trouvés relatifs aux activités récentes de Crafts, notamment les reçus de ses cartes de crédit.
Parmi la longue liste des achats habituels, une transaction attira l'attention des enquêteurs.
Nous avons découvert que Richard Crafts avait loué une déchiqueteuse d'une entreprise de location d'outils à Darien, au Connecticut.
Même si cette hypothèse semblait presque inconcevable, il était possible que Kraft se soit servi de cette déchiqueteuse pour se débarrasser du corps de sa femme. De Stefano, lui, était sceptique.
Mon premier réflexe a été de me dire que de telles choses ne pouvaient pas se produire, qu'on ne les voit qu'à la télévision mais pas dans la vraie vie.
Il se rendit à l'entreprise de Darien pour vérifier s'il était possible de se débarrasser d'un corps avec une telle machine. L'employé de l'entreprise lui montra la déchiqueteuse louée par Richard Kraft le 18 novembre, environ au moment où Haley Crafts avait disparu.
You could throw a piece of steel in there, it wouldn't make any difference. It would cut it up.
You say that opens up about 12 inches?
About 12 inches, yeah.
So 1,200 RPMs with a 900-pound piece of metal, two 12-inch blades. No way anything's going to stop that.
Not at all.
Les imposantes lames peuvent déchiqueter tout ce qui se trouve sur leur passage, mais l'ouverture ne fait que 30 cm de largeur. Disposer d'un corps à l'aide de cette machine est complexe, mais pas impossible. Cette hypothèse semblait toutefois assez extrême. Pendant que De Stefano enquêtait à propos de la déchiqueteuse, certains de ses collègues demandèrent aux employés de la voirie s'ils avaient vu quelque chose d'étrange. Un travailleur déclara qu'il était à l'extérieur aux premières heures du 19 novembre quand il avait aperçu quelqu'un en train de faire fonctionner une déchiqueteuse sur River Road, près de la rivière Housatonic. Ce témoignage inespéré allait donner une chance aux enquêteurs. Ils portèrent leur attention sur River Road.
Lorsque les détectives se sont rendus à l'endroit en question, ils ont trouvé des fragments de bois au sol. En explorant le secteur un peu plus, ils ont découvert des enveloppes dont l'adresse de retour était celle de Haley Kraft. À ce moment-là, nous avons compris que nous avions affaire à une enquête très inusitée.
Les experts recueillirent 33 sacs de débris près de River Road. On envoya les sacs au poste de police où l'on examina leur contenu morceau par morceau. Tout ce qui ne semblait pas être du bois ou des feuilles fut mis de côté.
Au début, nous avons trouvé un cheveu. Nous ne savions pas trop quoi en faire et nous l'avons mis dans une bouteille. Nous avons poursuivi nos recherches et avons ensuite trouvé un objet plus dur que le bois, mais moins que la pierre. Et nous nous sommes dit que nous devrions peut-être utiliser une autre bouteille pour les objets de ce type aussi.
Un triste scénario se dessinait à mesure que les experts examinaient le contenu des sacs. On érigea une tente sur le site pour examiner les indices. Konstantin Karazoulas, le dentiste judiciaire en chef de l'État, fut dépêché sur les lieux.
Nous devions recueillir les indices et les apporter sous la tente. Puis, nous les mettions dans l'eau et ensuite dans un filtre. Nous cherchions tout ce qui semblait être d'origine humaine.
Peu à peu, les preuves indirectes s'accumulaient. Le sang dans la chambre à coucher, la location de la déchiqueteuse et les fragments non identifiés parmi les copeaux de bois. Mais aucun corps n'avait encore été retrouvé et sans lui, il serait difficile de prouver qu'il y avait eu homicide. Les experts devaient tenter de trouver des éléments de preuve plus importants, sans quoi le meurtrier s'en tirerait. Pendant que l'on recueillait des indices près de River Road, les policiers interrogeaient des témoins potentiels. L'un d'eux avait aperçu un homme avec une déchiqueteuse le 19 novembre sur un pont à environ 2 km du site de River Road. On y envoya des plongeurs fouiller le fond de la rivière. Sous un pont, il n'est pas rare de trouver toutes sortes de vieux objets abandonnés dans les eaux. C'est le dépotoir de prédilection des vandales, un lieu où il est facile de se débarrasser de choses ni vues ni connues. La plupart du temps, on n'y trouve que des objets sans valeur. Quelquefois, par contre, Dan Lewis était l'un des plongeurs affectés à cette enquête.
Nous cherchions tout ce qui aurait pu servir d'arme ou de contenant, et bien sûr des restes humains. Sous le pont, il y avait beaucoup de parcomètres, de panneaux routiers, de chariots de supermarchés. Le genre d'objet qu'on retrouve là fréquemment. Quelque chose comme une scie mécanique ou une arme quelconque était par contre complètement inhabituel. Quand ils sont sortis de l'eau avec la scie, nous nous doutions bien que cela était relié à l'affaire.
Tout comme les autres indices, le lien entre la scie et le suspect était ténu. L'outil fut envoyé au laboratoire de l'expert Henry Lee. Pendant ce temps, sur le site de la tente, le détective DeStefano fit lui aussi une découverte révélatrice.
J'ai passé les débris au tamis. Comme d'habitude, je les ai rincés et je les ai tâtés un peu de la main pour voir si je les avais assez rincés. On s'habitue à toucher les fragments de bois. On reconnaît leur consistance au toucher. J'ai senti que quelque chose n'était pas de la même matière, c'était un peu visqueux. J'ai pris le fragment et je l'ai mis sous une lumière pour mieux le voir. C'était le bout d'un doigt.
On ne pouvait pas encore prouver qu'il s'agissait du doigt de Helle, ni déterminer qui était le meurtrier. Mais de toute évidence, on était confronté à un cas d'homicide. Tous ces fragments deviendraient significatifs au laboratoire lors de l'examen de la scie.
On ne jette pas une scie dans une rivière sans avoir une bonne raison. Au début, nous ignorions pourquoi la scie se trouvait là et nous ne savions pas si elle était reliée à notre affaire. Mais en l'examinant, nous avons trouvé les minuscules fragments d'un cheveu. Lors de l'examen au microscope, nous avons constaté qu'il était humain. De plus, il avait été décoloré et reteint.
Pour Hélène Pagliaro, l'assistante d'Henry Lee, ses cheveux étaient devenus chose courante. Elle en avait déjà trouvé plus de 2000 parmi les fragments de bois examinés.
Les racines de ses cheveux étaient en forme de pinceau. Lorsque la racine de cheveux contient des tissus humains et que ces tissus commencent à se décomposer, on obtient ce genre de racine qui ressemble au bout d'un pinceau. C'était important dans une enquête telle que celle de Kraft parce que cela indiquait que les cheveux avaient été en contact avec des tissus humains. Ce n'étaient pas des cheveux coupés qui provenaient d'un salon de coiffure et que l'on avait jetés là par hasard.
On les compara à des cheveux recueillis à même la brosse de la victime trouvée dans la maison des Kraft. Ils étaient identiques. La scie mécanique fut démontée. À l'intérieur, on retrouva des fibres de vêtements bleu-vert, des restes de chair et du sang. Les fibres étaient de la même couleur que la chemise de nuit de Haley. La chair fut analysée. Il s'agissait de tissu humain. De plus, le groupe sanguin était le même que celui de Haley Kraft. Il fallait maintenant découvrir à qui la scie appartenait. Il y avait de la rouille sur le numéro de série de l'outil à cause de son séjour prolongé dans l'eau, mais Helen Pagliaro savait comment le déchiffrer. Elle appliqua un produit chimique sur la plaque pour dissoudre les couches de métal corrodées. Elle obtint alors le numéro de série.
Le numéro était le E592166. Je me souviendrai sans doute de ce numéro toute ma carrière.
On parvint à retracer le détaillant de l'outil. La scie avait été achetée par un certain Richard Kraft. L'analyse de la scie permettrait de mettre en évidence un autre lien entre la victime et son meurtrier. Il restait maintenant au détective à prouver que Haley Kraft était bien morte. Après avoir ratissé les berges de River Road pendant plus d'une semaine, l'expert Karazoulas trouva enfin la dernière pièce du puzzle.
Je me suis penché et j'ai aperçu un objet étrange. Il s'agissait en fait d'une dent humaine.
Pour cet expert, cette découverte était d'une importance capitale.
Je savais que je pouvais maintenant identifier la victime.
Il compara la dent au dossier dentaire de Haley Kraft. C'était bien la sienne. La dent était toujours fichée dans l'os de la mâchoire et un bout de sa racine en avait été coupé.
Si la dent avait seulement été arrachée, nous n'aurions pas retrouvé ce type de fracture et elle n'aurait pas été attachée de cette façon à l'os. On a appliqué une force pour casser cette dent et écraser ainsi la mâchoire.
Cette force pouvait avoir été appliquée par la scie mécanique ou encore la déchiqueteuse. Il y avait un lien direct entre Richard Kraft et ses deux outils, ainsi qu'avec la victime, sa femme, Haley Kraft. Le filet se resserrait autour de ce pilote de ligne. L'état dans lequel la dent avait été retrouvée, les cheveux et les tissus humains permirent au coroner de déclarer, 2 mois après sa disparition, que Haley Kraft était bien morte. Les policiers reconstituèrent les événements à partir des indices recueillis. Au cours de la soirée du 18 novembre, au moment où Haley se préparait à aller se coucher, Richard la frappa à l'aide d'un objet contondant. Il se débarrassa des draps tachés de sang, mais laissa des traces révélatrices sur le tapis et le matelas. Il avait déjà loué la déchiqueteuse, sans doute pour une raison valable. Puis il se rendit compte qu'il avait l'occasion de tuer sa femme et de se débarrasser de son corps grâce à la machine. L'embouchure n'était cependant pas assez grande, d'où l'idée d'utiliser une scie mécanique. « 170 grammes de tissu humain seulement ont été retrouvés, soit moins d'1/1000 du corps de Haley Kraft. Heureusement, cela a suffi pour clore l'enquête. Pour son crime, Richard Craft fut condamné à 50 ans d'emprisonnement. Même si on a dû faire appel à toute une équipe d'experts, on a prouvé que c'était lui qui s'était débarrassé du corps. Mais la majorité des gens ne disposent pas toujours d'autant de ressources. Une femme mettrait 14 ans de sa vie à tenter de retrouver sa sœur. Eva DeHart désirait plus que tout avoir du bon temps dans la vie, mais elle se retrouva avec des personnes peu recommandables. Son cercle d'amis était formé d'un groupe hétéroclite de sympathisants motards. En 1982, il représentait une certaine menace pour la petite ville de Fredericksburg, en Virginie. Ils passaient le plus clair de leur temps au bar le Joker's Wild. Le petit ami d'Eva, George Patsalis, était le chef du groupe. Il était davantage craint que respecté. Eva le fréquentait depuis 8 ans. Avec le temps, il abusait de plus en plus d'elle. Elle le quittait parfois, mais jamais pour longtemps. Le 20 juillet 1982, Eva se rendit travailler au Joker's Wild. On n'allait jamais la revoir en vie. Le lendemain, la famille d'Eva constata qu'elle n'était pas rentrée et appela le service de police de Stafford County. Le détective Billy Bowler nous raconte comment l'enquête a commencé.
Au début, nous avons ouvert une enquête pour personnes disparues. Notre shérif était alors le détective en chef. C'est lui qui a commencé cette enquête. Il a interrogé les membres de sa famille et Patsalis. Ce dernier lui a remis une lettre d'Eva. Les membres de sa famille ont confirmé qu'il s'agissait bien de son écriture. C'était une lettre dans laquelle elle lui annonçait qu'elle le quittait et qu'elle ne reviendrait pas.
Si George savait où Eva était allée, il ne le dit pas. Pas plus d'ailleurs que les autres personnes interrogées. Sans aucune piste ni indice qu'un crime avait été commis, l'enquête piétinait.
Je crois que Patsalis a été un suspect dès le départ, mais personne ne disposait de la moindre information. Il n'y avait pas de corps ni d'indice. Eva DeHart avait disparu.
Les membres de la famille d'Eva étaient inconsolables. Debbie, la sœur d'Eva, soupçonnait qu'il y avait un pacte de silence au sein du groupe du Joker's Wild. Elle trouvait également que les policiers prenaient l'enquête à la légère. Pour retrouver Eva, elle savait qu'elle devrait poursuivre l'enquête seule. Debbie DeHart était résolue à découvrir la vérité à propos de la disparition de sa sœur. Elle n'hésita pas à harceler les membres du groupe du Joker's Wild l'un après l'autre. Elle les interrogea et nota tout. Elle savait que son seul espoir de retrouver sa sœur était de tirer le maximum d'informations des membres du gang. D'ailleurs, ces individus avaient toujours prétendu être les amis d'Eva. Malheureusement, aucun d'entre eux ne voulait parler. Ils craignaient trop George Patsalis. Les semaines se transformèrent en années, mais Debbie n'abandonna pas, même si elle était forcée d'admettre que sa sœur était sans doute morte.
Mes amis me disent que lorsque j'ai une idée en tête, je ne l'abandonne pas. Je crois que j'ai toujours su qu'elle était morte, mais dans mon cœur, je désirais découvrir ce qui lui était arrivé.
En 1996, un reportage retint l'attention de Debbie. On avait retrouvé le corps d'une femme dans un casier à Frederick, au Maryland, en 1982, soit la même année que la disparition d'Eva. Les techniques d'identification n'étaient pas aussi raffinées à cette époque. En avril 1996, le réputé expert Doug Osley de la Smithsonian Institution à Washington se servit de son talent pour redonner un visage à cette victime.
Les journaux avaient fait état de cette découverte d'un corps. Debbie DeHart, la sœur d'Eva, a lu l'article et elle s'est demandé s'il ne pouvait pas s'agir de sa sœur.
Eva Encouragée par la description sommaire du corps de la victime, Debbie obtint le dossier dentaire d'Eva pour qu'Osley puisse effectuer les comparaisons d'usage. Malheureusement, les dents n'étaient pas les mêmes. La jeune fille trouvée dans le casier n'était pas Eva DeHart. La quête de Debbie ne semblait jamais vouloir se terminer. Heureusement, la jeune fille du casier allait l'aider malgré tout.
On a fait beaucoup de publicité autour de l'affaire. Les gens de la télé et des médias me talonnaient. Ils m'ont interviewé à quelques reprises. Cela a eu pour effet d'attiser l'intérêt du public.
Après 14 ans sans relâche, l'enquête de Debbie faisait enfin des progrès. C'était sa dernière chance. Elle engagea le détective privé Al Baker pour l'aider à retrouver les anciens membres du gang du Joker's Wild.
Nous sommes entrés en contact avec les différentes personnes dont Debbie nous avait donné les noms. Elle avait travaillé très fort pour savoir qui faisait partie du groupe et comment les rejoindre.
Aucun d'entre eux ne put fournir d'informations précises. La plupart craignaient encore George Patsalis. Mais un nom revenait sans cesse, celui de Barbara Campfield, celle qui était devenue la nouvelle amie de George, puis sa femme, après la disparition d'Eva. Une femme en particulier déclara qu'elle avait aidé Campfield à nettoyer des taches de sang au Joker's Wild après la disparition de la jeune femme. Lorsque cela s'était produit, Campfield lui avait dit qu'une bagarre avait éclaté. Peut-être Barbara Campfield savait-elle quelque chose? Et si oui, quoi? Debbie avait déjà tenté de lui soutirer des informations, mais n'avait rien obtenu. Baker prit la relève.
J'ai commencé par me présenter. Je lui ai remis ma carte de visite et mes numéros de téléphone. Je lui ai calmement expliqué que la famille DeHart et moi-même enquêtions et que nous n'avions nullement l'intention d'abandonner. Nous étions résolus à parler avec tous ceux que nous pourrions retrouver et comptions bien découvrir ce qui était arrivé à Eva.
Barbara Campfield coopéra avec le détective Bowler et le service de police de Stafford County. Elle conduisit les policiers à une maison abandonnée à l'extérieur de la ville. Campfield déclara que la nuit où Eva avait disparu, George Patsalis lui avait demandé de l'aider à jeter quelque chose de lourd dans un puits. Il lui demanda de ne poser aucune question. Elle n'avait jamais osé le faire.
On nous a indiqué où se trouvait le puits. Nous avons dès lors obtenu un mandat pour fouiller la propriété. Nous nous sommes rendus accompagnés de la police d'État, de membres du bureau du shérif d'Orange County et du service d'incendie de Fairfax County. Nous avons demandé au service d'incendie de nous aider à descendre dans le puits.
Après s'être assuré qu'il ne courait aucun danger, les membres de l'équipe de sauvetage descendirent lentement dans les profondeurs du puits. Le trou était d'une largeur de 60 cm et d'une profondeur de 6 mètres. Bientôt, les hommes firent monter des seaux pleins de terre et de débris. Des feuilles et la terre s'étaient accumulées avec les années. Puis, ils commencèrent à trouver des ossements. On les déposa par terre près du puits pour que l'anthropologue puisse les examiner et évaluer ce qui pouvait encore manquer au squelette. Il n'y avait aucun doute sur le fait que les ossements étaient humains et que c'était ceux d'une femme. On compara la mâchoire retrouvée à celle des radios du dossier dentaire d'Eva avant de confirmer les résultats. La sœur de Debbie DeHart avait finalement été retrouvée.
Il était préférable pour nous de la retrouver que de ne jamais savoir ce qui lui était arrivé. Sinon, nous n'aurions jamais su à quel point notre blessure était profonde et celle-ci n'aurait pas cessé de nous faire souffrir.
Pour découvrir la cause de sa mort, Osley étudia les ossements centimètre par centimètre, notamment toutes les fractures. Avait-elle été assassinée à un autre endroit que celui où on l'avait retrouvée? Est-ce que c'était plutôt la chute de 6 mètres qui lui avait coûté la vie ou avait-elle été abandonnée en vie au fond du puits? Les blessures causées par la chute se limitaient aux membres inférieurs de son corps.
Les fractures aux pieds, aux tibias, aux os des cuisses et au bassin étaient le résultat de la chute dans le puits. Lorsqu'on l'a laissée tomber, ses pieds ont heurté le fond et c'est ce qui les a causés. Quand le tibia est soumis à une force de cette importance, la jointure du genou se coince. En examinant le bout du fémur, on voit que ces parties s'emboîtent ainsi. La pression comprime la portion distale du fémur et cause la fracture ici.
Suite à l'examen des ossements d'Eva, Osley en conclut qu'elle était sans doute morte au moment où on avait jeté son corps dans le puits.
Quatre os de son visage ont été cassés lors du coup, c'est-à-dire une partie du maxillaire droit, du maxillaire gauche et les deux os du nez. Ces derniers ont littéralement été arrachés et l'on peut voir que le cou est parti de la droite vers la gauche et de bas en haut parce qu'il y a un angle un peu oblique à l'os nasal. On ne voit pas la trace d'un outil ou d'une arme spécifique. Apparemment, la blessure a été infligée d'un coup de poing.
Aucune partie du squelette n'était exempte de blessure.
C'était un meurtre sauvage. C'est la seule façon de le décrire. Je crois que le coup au visage aurait suffi à lui seul à la tuer. Il était tout simplement résolu à éliminer cette femme.
George Patsalis vivait maintenant en Floride. Il fut accusé du meurtre d'Eva DeHart. Lors du procès, Osley présenta les ossements d'Eva au jury. C'était comme si Eva elle-même témoignait contre son meurtrier.
Doug pensait que l'aspect dramatique de sa mort aurait un impact sur le jury. Que cela serait comme si Eva disait elle-même au jury « Regardez ce qu'on m'a fait ». Et je crois même que ce sont les mots que l'avocat de l'État a utilisés. « Regardez ce qu'on m'a fait ».
Le 8 octobre 1997, George Patsalis fut condamné à la prison à vie pour son crime. L'affaire Eva DeHart a été résolue grâce à la criminalistique, au travail des détectives et aux témoignages. Mais qu'en est-il lorsqu'il n'y a aucun témoin, ni scène du crime ou trace du corps? Tous les habitants de New Albany, dans l'Indiana, savaient qu'Eric Humbert et Jonathan Whitesides étaient les meilleurs amis du monde. Ils travaillaient ensemble pour le service de géologie américain et partageaient des activités après le travail et pendant les week-ends. Au cours de la soirée du 15 janvier 1991, après une partie de basketball avec des collègues, les deux hommes se rendirent en voiture à un atelier de mécanique. La voiture de Whitesides devait être réparée. Ils la laissèrent avant de partir. Mais à 21h30, Humbert n'était toujours pas rentré chez lui. Missy, sa femme, déclara qu'elle l'avait alors appelé chez les Whitesides pour savoir s'il l'avait vu. Jonathan lui dit qu'Eric venait tout juste de partir et qu'il arriverait sans doute dans quelques minutes. Mais les minutes se transformèrent en heures. À 2h du matin, Missy téléphona de nouveau chez les Whitesides. Eric n'était pas encore rentré et elle était très inquiète. Jonathan lui dit qu'il partait immédiatement chez elle. Eric ne devait jamais rentrer. Missy parla à la police le lendemain, mais elle ne signala officiellement la disparition d'Eric que 2 semaines plus tard. La relation entre elle et lui était tendue et elle avait présumé qu'il avait décidé de prendre un peu de temps à lui seul. Elle était maintenant convaincue que quelque chose d'horrible lui était arrivé. Eric était parti trop longtemps. Il n'aurait jamais laissé ainsi son fils de 18 mois. Ce n'était pas dans ses habitudes. Le détective Keith Whitlow de la police de New Albany menait cette enquête.
Nous avons commencé par interroger ses collègues. Une rumeur circulait à l'effet qu'Eric avait une maîtresse dans un autre état. Nous avons interrogé cette femme et elle nous a dit qu'elle ne l'avait pas vue. Sa disparition était un mystère pour tout le monde. De plus, son automobile avait également disparu.
Le détective obtint une information intrigante en interrogeant les collègues de Missy, la femme d'Eric. Jonathan allait souvent la chercher à son bureau. Certains croyaient même qu'ils avaient une liaison. Jonathan Whitesides était au centre des soupçons, même s'il n'y avait pas encore le moindre indice qu'un crime ait été commis.
Hey,
Les mois passèrent. Il semblait qu'Harry Cumbert et sa voiture avaient été littéralement rayés de la carte. Au cours de cette période, Whitesides emménagea avec Missy et son fils. Puis, en avril, 4 mois après la disparition d'Eric, on retrouva une chevette blanche dans une fourrière à Louisville, au Kentucky. La voiture n'avait jamais été réclamée. Elle serait bientôt vendue ou détruite.
Ils ont décidé de suivre la procédure et d'effectuer une dernière vérification auprès du Centre national d'information du crime pour voir si l'auto avait été volée ou si on pouvait trouver son propriétaire. Ils ont alors appris que cette voiture était reliée à une affaire de personnes disparues juste de l'autre côté de la rivière Ohio, à New Albany, dans l'Indiana. Nous avons bien failli perdre un élément très important.
La voiture appartenait à Harry Cumbert. On avait enlevé ses plaques d'immatriculation. En ouvrant le haillon, les policiers aperçurent des traces de sang à l'intérieur. Les détectives de Louisville interrogèrent Whitesides, la dernière personne à avoir vu Humbert en vie. Il consentit à subir un test polygraphique. Il l'échoua. Lorsqu'on le mit devant les faits, Whitesides reconnut qu'il n'avait pas tout dit. Il raconta qu'après la partie de basketball, le soir de la disparition d'Eric, les deux hommes s'étaient rendus à l'atelier de mécanique pour que Whitesides puisse y laisser sa camionnette. Ils étaient ensuite allés à la maison de Whitesides pour réparer une autre voiture. À partir de là, le récit de Whitesides prit une tournure bizarre.
Il a dit qu'Eric s'est mis en colère et qu'il l'a accusé d'avoir une liaison avec sa femme. Eric a alors sorti un couteau et les deux hommes se sont mis à se disputer violemment. Ils en sont venus au point. Jonathan a déclaré qu'au cours de cette bagarre, il a accidentellement poignardé Eric à la gorge et que cette blessure lui a été fatale.
Jonathan fut alors pris de panique. Il était convaincu que personne ne croirait à l'hypothèse d'un accident. Il plaça le corps d'Eric dans sa chevette, se rendit dans un endroit isolé près de la rivière Ohio et y jeta le corps. Il ne se rappelait cependant pas exactement à quel endroit il l'avait jeté. Il y avait lieu de croire que Whitesides ne disait pas toute la vérité. Il fut mis en détention provisoire le temps que les enquêteurs vérifient le bien fondé de ses déclarations. À moins de retrouver le corps, les seuls indices qui pouvaient réfuter ou prouver les déclarations de Whitesides se trouvaient dans la chevette tachée de sang. Les taches corroboraient le fait que le corps y avait été transporté, mais un détail demeurait intrigant. 5 lignes de sang en forme de chevron se trouvaient sur la moquette. Un objet inconnu couvert de sang s'était sans doute trouvé contre la moquette pour créer ce motif. Les marques étaient parallèles, elles ne pouvaient donc pas avoir été causées par des doigts. Les taches étaient certes intrigantes, elles n'avaient aucune signification, du moins pour le moment. Sous le capot, il y avait une grande éclaboussure de sang dans laquelle se trouvaient des fibres d'un vert éclatant. La présence de ces fibres était impossible à expliquer. À l'intérieur de la section du moteur, les experts retrouvèrent ce qui semblait être des tissus humains. On les envoya au laboratoire pour les faire analyser. L'expert judiciaire Rod Anglott fut appelé à examiner les taches de sang. Il y avait une fine pulvérisation sur le chapeau d'allumage qui n'était pas due à une blessure au couteau. Il nous explique.
Je vais prendre une quantité de sang. Supposons que ce compte-gouttes est le bout d'un couteau, que quelqu'un me le plante dans le cou et le retire pour le replanter à nouveau. Cela causera une giclée de sang telle que celle que l'on voit ici. Maintenant, si l'on compare les deux sortes de pulvérisation, on peut voir une énorme différence.
La giclée de sang causée par un couteau ne provient que d'une direction. Les gouttes de sang sur le chapeau d'allumage étaient multidirectionnelles.
Elles ne pouvaient avoir été causées que par une arme à feu.
Les fines gouttelettes de sang prouvaient que Whitesides avait menti. Les experts du laboratoire en Oregon auraient bientôt de nouvelles raisons de douter de la version de Whitesides. Ray Grimsbow examinait les tissus humains recueillis sur le moteur. L'analyse au microscope révéla qu'il s'agissait effectivement de tissus humains d'une seule personne.
La disposition des cellules, leur réaction à la teinture, tout indiquait qu'il s'agissait de cellules du cerveau. Elles ne provenaient pas de la peau ni d'un autre organe, c'était du tissu neuronal.
Lors de l'examen approfondi de la voiture, les analystes découvrirent un trou causé par un projectile au bas d'un essuie-glace. Ils recueillirent deux fragments et les envoyèrent à Grimsbow. Ce dernier confirma que ces fragments provenaient d'un projectile et de sa douille de cuivre. Mais plus intrigante encore était la fibre verte qui s'était accrochée aux fragments. Grimsbow ne savait quoi en penser. Une chose était sûre, la voiture racontait une toute autre version que Whitesides. Il avait utilisé une arme à feu et non un couteau. Les enquêteurs fouillèrent le garage de Jonathan Whitesides, c'est-à-dire le lieu même où il avait déclaré avoir accidentellement tué son meilleur ami. Au premier abord, le garage semblait ne receler aucun indice. Mais on trouva bientôt une cartouche de 9 mm. Quelques jours plus tard, on recueillit un pistolet du même calibre dans la camionnette de Whitesides. Humbert avait été tué d'un coup de feu. Les tissus du cerveau et la trajectoire de la balle indiquaient qu'il avait reçu le projectile à la tête. Quelque chose dans cette version clochait.
Il n'y avait pas beaucoup de sang. En général, lorsque quelqu'un reçoit un projectile à la tête, on retrouve du sang partout. Dans ce cas-ci, il n'y en avait que très peu. Ça a fait tilt dans ma tête. Nous avions trouvé de la fibre verte sur le projectile. C'était pour ça que nous n'avions pas retrouvé de sang, parce qu'il portait une casquette.
Le motif de sang en forme de chevron sur la moquette de la voiture provenait sans doute de la casquette de la victime. Les indices étaient très incriminants, mais il fallait absolument tout faire pour convaincre le jury qu'Eric Humbert avait été assassiné. Toute tentative de retrouver son cadavre avait été vaine. L'équipe d'experts judiciaires effectua des analyses d'ADN. Malheureusement, ils ne disposaient pas d'échantillons de sang auxquels les comparer.
Pour identifier Eric Humbert, nous devions tout simplement procéder à un test de filiation. Nous avons analysé l'ADN des membres de sa famille. Il avait une mère, deux frères et sœurs, un fils, en plus de sa femme. Nous avons comparé ces échantillons au sang et au tissu humain recueillis sur la scène.
Pour s'assurer que les indices n'avaient pas été contaminés, on identifia l'ADN dans deux laboratoires différents simultanément. Les résultats étaient concluants, mais les détectives n'étaient pas encore satisfaits. Pour que les preuves soient irréfutables, il était souhaitable d'obtenir également le code génétique du père d'Eric. La police obtint la permission d'exhumer le corps de son père, décédé quelques années plus tôt. L'ADN fut prélevé à partir d'un os de sa jambe. Le résultat ainsi que le code d'ADN de sa mère furent ensuite comparés à celui du sang découvert dans la chevette.
Nous avons pu démontrer hors de tout doute que l'ADN était celui du fils de ces deux personnes.
Même si l'accusation ne disposait pas du corps de la victime, elle pouvait faire condamner Jonathan Whitesides. L'avocat de la poursuite déclara que le dernier soir de sa vie, Eric s'était rendu chez Jonathan Whitesides pour l'aider à réparer sa voiture. Il est possible qu'il soupçonnait son meilleur ami d'avoir une liaison avec sa femme. Il ignorait toutefois à quel point cet ami voulait se débarrasser de lui. Humbert se pencha en avant de sa voiture pour montrer à Whitesides de quelle façon il l'avait réparée. C'est alors que son ami sortit son pistolet de 9 mm et lui tira une balle dans la nuque à bout portant. Il plaça ensuite le corps d'Eric dans la partie arrière de la chevette, s'en débarrassa, puis abandonna le véhicule. Il croyait qu'il avait éliminé tous les indices. Mais il avait tort. Le jury délibéra pendant 45 minutes avant de trouver Jonathan Whitesides coupable de meurtre. Il fut condamné à 50 ans d'incarcération. Quant au corps d'Eric Humbert, il n'a pas encore été retrouvé.
Après la condamnation de Jonathan, la mère d'Eric m'a agrippé par le bras et m'a supplié de ne pas abandonner les recherches. Ce qui est ironique, c'est que chaque fois que j'entends parler qu'un corps a été retrouvé, je cherche toujours à vérifier s'il s'agit d'Eric. Nous ne l'avons pas encore retrouvé, mais d'une certaine façon, nous le cherchons toujours.
Il n'y a pas si longtemps, lorsque des victimes disparaissaient, il était pratiquement impossible de faire inculper leur meurtrier. Mais les règles changent depuis que la justice a décidé de marcher côte à côte avec la science. On ne peut pas toujours retrouver le corps de la victime, mais cela n'empêche pas les enquêteurs de découvrir l'identité de son meurtrier. Signale la disparition d'un adolescent. Une enquête policière révèle la mort de dizaines de garçons et de jeunes hommes, tous victimes du même meurtrier. Un photographe s'adonne au viol et à la torture. Il consigne ses crimes sur film et bande audio. Quatre personnes sont découvertes assassinées dans une banlieue paisible. Les enquêteurs se demandent quel genre de monstre a pu commettre ces horribles meurtres. Le tueur en série est obsédé par sa compulsion à tuer. Il perfectionne sa technique d'une fois à l'autre. Il est convaincu qu'il ne se fera jamais arrêter. Mais les chasseurs de ses meurtriers les traquent afin de les empêcher de tuer à nouveau. Vers 6 heures du matin, le 23 janvier 1978, des policiers du service de police de Sacramento, en Californie, se rendent à la résidence de Terry et David Wallin. Ce dernier, pris de panique, avait demandé à un voisin de contacter le service de police. Sa femme, Terry Wallin, âgée de 22 ans, avait été brutalement assassinée. Apparemment, il y avait eu une lutte violente entre elle et son assaillant. Elle avait été tuée par balle et le meurtrier avait ensuite tailladé son corps. Son torse avait été ouvert dans toute sa longueur avec un couteau. Certains de ses organes internes avaient été enlevés. Les enquêteurs étaient horrifiés par la brutalité du meurtre. Le meurtrier semblait même avoir bu le sang de sa victime. Il avait laissé une empreinte de lèvres sur le rebord d'un pot de yaourt. La police de Sacramento, dépassée par les événements, fit appel à un spécialiste familier avec les meurtres bizarres. Il se nomme Russ Vorpegel. Il est agent spécial au FBI. La brutalité du meurtre laissait supposer que le tueur était incapable de se maîtriser et que Terry Wallin n'était peut-être que la première d'une série de victimes.
Rien ne justifie qu'on éviscère sa victime. Rien ne justifie d'ouvrir le corps et d'enlever les organes. Rien ne justifie de couper un morceau de 8 cm d'une artère et de le trimballer avec soi. Nous avions affaire à un fou, nous le savions. Cela nous consternait et nous savions qu'il préparait autre chose.
Vorpegel a plaint de ses collègues du FBI. Robert Ressler a retracé et arrêté certains des meurtriers les plus dangereux au monde. Il étudie leur comportement et dresse leur profil psychologique. Il est l'un des premiers experts à avoir utilisé l'expression « tueur en série » dans les années 70 pour décrire ces monstres qui tuent à répétition. Robert Ressler est un chasseur de meurtriers. Il tente de comprendre la psychologie du meurtrier en analysant la scène du crime. S'il parvient à interpréter la pensée du tueur, il pourra peut-être prédire son prochain meurtre. À quel moment va-t-il attaquer? Qui sera sa prochaine proie?
Il faut avoir un besoin viscéral d'élucider un crime pour faire ce métier. On doit vouloir savoir qui l'a perpétré, quel genre de personne il est, comment il était avant, pendant et après le crime.
Mais il y a un certain danger à s'associer si intimement à ces monstres. Quiconque combat des monstres doit prendre garde de ne pas devenir un monstre lui-même. Ressler garde toujours en tête ces paroles du philosophe allemand Friedrich Nietzsche. Ce dernier disait aussi « Si tu regardes au fond de l'abîme, c'est sans ciller que l'abîme à son tour te fixe de son regard. » Cette pensée est à la fois une motivation et un avertissement pour Robert Ressler.
Regarder au fond de l'abîme, pour moi, cela signifie plonger le regard au plus profond de l'esprit humain. Et lorsque Nietzsche dit que l'abîme à son tour nous regarde, cela signifie que je me regarde moi-même, que je vois mon propre reflet. Car dans chaque tueur sanguinaire, il y a une partie de soi. À un moment dans ma vie, j'aurais pu prendre le même chemin.
Dans les années 70, Ressler faisait partie de la première équipe du service d'études du comportement, un programme mis sur pied par le FBI destiné à la compréhension des motivations du tueur en série. Ressler a interrogé certains des meurtriers les plus célèbres des États-Unis afin de définir leurs habitudes et leurs comportements. Aujourd'hui, il est expert conseil et participe à des enquêtes de meurtres en série partout dans le monde. En janvier 1978, Ressler mit sa compétence au service des enquêteurs de Sacramento et dressa le profil du meurtrier de Terry Wallin. C'était la première étape qui permettrait de découvrir son identité. Ressler commença son analyse en étudiant les détails de la scène du crime.
Ce qui est important lors de l'analyse de la scène du crime, c'est la position du corps, la façon dont il a été laissé par le meurtrier, dans quel état il se trouve, s'il est vêtu ou non. Et bien sûr, on regarde s'il y a des armes, si le meurtrier a apporté son arme avec lui et s'il l'a laissée sur la scène du crime. Ce sont des éléments dont on tient compte.
Le meurtrier avait tiré sur Terry Wallin et tailladé son corps avec des couteaux qui provenaient de la cuisine de la victime. Il les avait ensuite laissés là, à la vue de tous. Ce détail allait se révéler très important par la suite. Les tueurs en série sont généralement de sexe masculin. Vorpegel et Ressler assumèrent donc que leur suspect était un homme. Ils pensaient également qu'il était de race blanche, comme c'est le cas la plupart du temps. La brutalité du meurtre et l'apparente indifférence du meurtrier à laisser des indices derrière lui étaient des signes évidents de maladie mentale. Cela permit aux deux experts de déterminer son âge. La maladie mentale commence généralement à l'adolescence. La maladie devait avoir progressé pendant au moins 8 ans pour être à la source d'un crime d'une telle violence. En supposant que les symptômes avaient commencé vers l'âge de 15 ans, le meurtrier avait donc entre 25 et 30 ans. S'il avait été plus âgé, il aurait déjà commis plusieurs autres meurtres de même nature. Ressler était également convaincu que le meurtrier souffrait de schizophrénie, cette maladie mentale caractérisée par la paranoïa, les hallucinations et un comportement étrange. L'atrocité du crime démontrait qu'il était en pleine psychose, c'est-à-dire qu'il avait complètement perdu le contact avec la réalité. Les enquêteurs le surnommèrent le vampire parce qu'il avait bu le sang de sa victime. Ressler travaillait sans relâche avec Vorpegel afin d'établir le portrait du tueur. À quoi ressemblait-il ? Tous deux étaient convaincus que le meurtrier était maigre. En général, les schizophrènes mâles négligent leur alimentation. Vorpegel croyait également que le meurtrier ne devait pas prêter attention à son apparence.
Un homme qui souffre d'une maladie mentale de cette gravité ne fait pas attention à son hygiène. Il ne se coupe pas les cheveux, il porte les mêmes vêtements pendant des semaines et ne se brosse pas les dents. Son apparence est négligée.
Compte tenu de son comportement étrange, il vivait sans doute seul. Vorpegel envoya une copie du profil du meurtrier au service de police de Sacramento pour qu'il soit distribué dans le secteur. Mais on n'obtint aucun résultat. Le vampire était toujours en liberté. Découvrirait-on son identité avant qu'il ne récidive? Trois jours après le meurtre sanguinaire de Terry Wallin, le vampire frappa de nouveau à environ un kilomètre de la maison de sa première victime. Les agents découvrirent les corps de Daniel Meredith, Evelyn Mirott et de son fils Jason. Le neveu de Evelyn Mirott, âgé de 22 mois, avait également disparu, probablement victime du meurtrier lui aussi. Il était devenu impératif de découvrir l'identité du tueur, car il recommencerait à coup sûr. Les enquêteurs redoublèrent d'efforts. Ils se servirent des nouvelles informations recueillies sur la seconde scène du crime pour raffiner le profil du meurtrier. Le vampire avait de nouveau tiré sur ses victimes. Il s'était également servi de couteaux qui se trouvaient dans la cuisine. On retrouva deux couteaux dans une chambre et un troisième à l'extérieur. Le vampire ne semblait pas s'être soucié de laisser les armes derrière lui. Ces détails indiquaient que le tueur ne planifiait pas ses crimes. Il avait une arme à feu, mais utilisait aussi des couteaux qu'il trouvait sur les lieux et qu'il laissait derrière lui.
Nous avons ici un couteau qui a été utilisé pour mutiler les corps. Il provenait de la cuisine et a été abandonné sur la scène du crime. Lorsque j'ai constaté que ce deuxième scénario était semblable au premier, j'ai compris que le tueur était de type désorganisé.
Il y a deux types de tueurs en série. Ceux qui sont organisés et ceux qui sont désorganisés. Les tueurs en série organisés planifient minutieusement leurs actes. Ils cachent très bien leurs pistes et ne laissent pas ou peu d'indices qui permettraient de les relier à leurs crimes. Quant aux tueurs désorganisés, ils agissent par impulsion. Ils sont imprévisibles et il est difficile de prévoir leur comportement. Les enquêteurs découvrirent des traces de sang dans la baignoire. Le vampire avait pris un bain d'eau et de sang. Ses agissements devenaient de plus en plus étranges. Sa maladie mentale semblait progresser.
Nous savons très bien qu'une personne normale n'ira pas remplir un bain d'eau et de sang. Sa personnalité indiquait à quel point son esprit se détériorait.
Vorpegel et Ressler reconstituèrent les événements à partir des indices laissés sur la scène du crime. Le portrait terrifiant du vampire commençait à prendre forme. Tout semblait indiquer que l'apparence du vampire continuait de se détériorer. Il n'avait probablement pas changé ses vêtements. À moins de vivre seul et d'être célibataire, son comportement n'avait pu passer inaperçu. Le sujet était mince, son apparence était négligée. Il vivait seul et il n'avait pas plus de 30 ans. Une des victimes, Daniel Meredith, s'était fait voler sa voiture. Le véhicule fut retrouvé à proximité de la scène du crime, ce qui laissa les enquêteurs perplexes. Ressler en conclut que le vampire avait sans doute marché jusqu'au lieu du crime, puis qu'il avait pris la fuite dans la voiture de Meredith, mais l'avait laissée un peu plus loin.
Le tueur devait habiter à proximité de l'endroit où il avait abandonné la voiture. J'avais calculé environ 500 mètres.
Le lendemain de ces trois nouveaux meurtres, à seulement quelques pâtés de maison de la scène du crime, on signala aux policiers qu'un chien avait été tué par balle, puis mutilé. Pour les enquêteurs, c'était le coup de chance qu'ils attendaient. Les tueurs en série mutilent et tuent souvent des animaux pendant leur enfance.
Il est sorti et a tué cet animal avec la même arme qu'il avait utilisée sur Wallin, Mirot et Meredith. Ensuite, il l'a étripé et a bu son sang.
Les enquêteurs découvrirent d'autres cadavres d'animaux. Le piège se refermait sur le tueur. Tout indiquait que le vampire habitait le même secteur que ses victimes animales et humaines. Il ne pouvait pas être allé bien loin. La police distribua le profil du meurtrier partout dans la ville dans l'espoir que quelqu'un aurait vu un homme à l'apparence négligée et au comportement étrange. Les agents concentrèrent leurs recherches dans un périmètre d'un demi-kilomètre des scènes du crime. Une jeune femme sortait d'un centre commercial de Sacramento. Un homme à l'allure très étrange s'approcha d'elle. Comme elle avait entendu parler du vampire, elle décida d'alerter la police. Elle déclara aux agents que l'homme qu'elle était parvenue à semer était un ancien camarade de classe du nom de Richard Trenton Chase. Elle avait été frappée par son aspect répugnant. Son chandail était taché de sang. Ses yeux semblaient perdus au fond des orbites. Une croûte jaune entourait sa bouche. La description de Chase correspondait en tout point au profil du vampire. Munis d'un mandat de perquisition, les agents pénétrèrent chez lui. Le petit appartement était bourré d'objets néo-nazis. Le sol était jonché de brochures qui traitaient de conspiration extraterrestre. Le désordre de la salle de séjour reflétait bien le déséquilibre mental de celui qui vivait ici. Dans la cuisine, les policiers découvrirent des appareils électroménagers recouverts de taches de sang, ainsi que des coupures de journaux à propos du meurtre de Terry Wallin. Des plats du réfrigérateur contenaient des tissus humains. Il y avait des couteaux de la maison de Wallin dans un tiroir de la cuisine. Les enquêteurs découvrirent également un coffre à outils et des bottes tachées de sang. Chase fut arrêté et accusé de 5 meurtres au premier degré, dont celui du neveu de 22 mois de Evelyn Mirott, dont les restes furent découverts près de l'appartement du meurtrier. Le jury ne délibéra que quelques heures avant de déclarer Chase coupable de toutes les accusations. Il fut condamné à la chaise électrique. En 1979, Ressler décida d'interroger Chase en prison.
La raison pour laquelle je l'ai interrogé, c'était pour valider et mettre à jour le travail que j'avais fait. Je voulais lui parler après avoir travaillé sur cette enquête, après avoir analysé les scènes du crime, après avoir lu les rapports de police et bien sûr les rapports de la cour. C'est le meilleur moyen de peaufiner sa façon d'établir des profils psychologiques.
Chase déclara à Ressler qu'il avait tué pour sauver sa propre vie. Il avait besoin de sang pour éviter ce qu'il appelait l'empoisonnement au savon qui se trouvait sur la vaisselle. Il croyait que le résidu gluant sous son porte-savon prouvait qu'il était mourant. Il disait que son sang s'asséchait et rongeait son corps. Ces meurtres, déclara-t-il, étaient un réflexe d'autodéfense.
Quand il a commencé à expliquer ses motivations, il a dit que le sang dans ses veines se transformait en poudre ou en poussière et qu'il circulait très lentement dans son corps, ce qui le ralentissait et le rendait fatigué et malade. Il croyait que c'était dû au fait qu'il y avait des ovnis ou des extraterrestres, et que la seule façon de contrer cette influence était de s'approvisionner en sang humain frais.
Qu'est-ce qui avait poussé un homme comme Chase à devenir un meurtrier ? Une étude du FBI portant sur 36 tueurs en série a révélé que, bien qu'ils aient tous eu leurs deux parents au début de leur vie, près de la moitié d'entre eux avaient été abandonnés par leur père à l'âge de 2 ans. 26 des 36 tueurs ont déclaré avoir eu des rapports froids et impersonnels avec leur père, et la moitié ont déclaré avoir eu également des rapports froids avec leur mère. Dans près de 70% des familles, il y avait des problèmes d'alcoolisme. Il y avait également des problèmes de drogue pour le tiers d'entre elles. Presque tous avaient été victimes d'abus psychologiques, physiques ou sexuels. Pendant leur enfance, plusieurs de ces tueurs en série avaient torturé des animaux. La majorité d'entre eux n'avaient pas obtenu leur diplôme d'études secondaires. Bien que plusieurs d'entre eux aient été assez intelligents pour occuper des emplois qualifiés, la plupart n'avaient pas obtenu de travail intéressant. Seulement 20%, soit 6 hommes, étaient parvenus à garder un emploi stable. Cependant, les tueurs en série ont souvent l'air normal. Ils ressemblent à un voisin ou un ami.
Ces personnes sont comme les gens ordinaires. Souvent, ils sont intelligents, ils sont beaux, ils conversent bien. Souvent, leur quotient intellectuel est normal ou supérieur, et ils sont manipulateurs.
Ressler n'approuvait pas la condamnation à mort de Chase. Selon lui, c'était un malade mental et il aurait dû être interné à vie dans un hôpital psychiatrique. Les psychiatres de la prison finirent par se ranger de son côté et la sentence de Chase fut modifiée en peine d'emprisonnement à perpétuité. Mais ce dernier se suicida dans sa cellule, peu après Noël 1980. Il s'était fait des réserves d'antidépresseurs qu'il avala d'un seul coup. Le court règne de terreur de Richard Trenton Chase était terminé. Par contraste, l'un des tueurs en série américains les plus rusés était également l'un des plus méthodiques. D'une intelligence supérieure à la moyenne et photographe de talent, ce meurtrier était spécialisé dans le rapt, le viol et la torture. Les policiers l'avaient surnommé « le sujet non identifié ». Il était passé maître dans l'art de la planification. Il se servait de films et de bandes audio pour enregistrer ses crimes. Il avait loué un espace dans un entrepôt où il conservait les photos de ses victimes et les enregistrements de leurs cris désespérés. Il était si méticuleux qu'il ne laissait pratiquement aucun indice de ses atrocités, sauf les photos qu'il prenait. Ce meurtrier avait transformé son auto afin qu'elle soit semblable à un véhicule banalisé de la police. avait renforcé la suspension et ajouté un dispositif de sécurité qui empêchait ses victimes d'ouvrir les portières. Pendant 5 ans, il voyagea partout aux États-Unis, d'un État à l'autre. Il ne restait jamais à la même place très longtemps. Il était autonome et finançait ses crimes grâce à un autre talent, celui de faussaire. Il était convaincu qu'il ne serait jamais arrêté. À Manassas, en Virginie, d'anciens agents du FBI enquêtent sur des cas de meurtre en série. Ils font partie du Academy Group. Ils comptent plusieurs années d'expérience. Robert Hazelwood et Peter Smerick sont experts en matière d'analyse du comportement des criminels.
Si vous êtes une personne impulsive et si vous agissez sans réfléchir, eh bien, la scène de votre crime sera négligée. Elle reflétera votre impulsivité. À l'inverse, si vous êtes un individu froid et calculateur, vous ne prendrez pas de risques inutiles. Ce genre de comportement se reflétera également sur la scène du crime.
Mais même si le tueur en série laisse des indices derrière lui, il n'est pas facile de dresser son profil. Certains meurtriers ont à la fois des comportements désorganisés et méthodiques.
Trop souvent, un enquêteur commence son analyse de la scène et tente de faire entrer le criminel dans une catégorie établie. Il est souvent déçu lors de l'arrestation quand la personne ne correspond pas du tout à cette classification.
À la station balnéaire de Ocean City, dans le Maryland, une jeune femme venait de terminer sa journée de travail à l'épicerie. Elle s'apprêtait à rentrer chez elle pour le week-end. Un homme l'approcha et déclara être policier. Il lui présenta une carte d'identité et lui montra sa voiture banalisée. Il lui dit qu'elle était suspecte dans une série de vols et exigea qu'elle l'accompagne au commissariat pour interrogatoire. Il lui passa les menottes et la poussa dans la voiture. C'était le début de la plus longue et de la plus terrifiante expérience dans la vie de cette femme. L'homme n'était pas agent de police. C'était le sujet non identifié. Un dangereux tueur, et il venait de choisir sa prochaine victime. Il l'emmena dans un bâtiment désert où il la viola à répétition et la tortura. Il photographia et enregistra toute la scène.
Je crois que les mots-clés sont « pouvoir » et « contrôle ». Si l'on a affaire à un violeur ou à un tueur en série, je crois qu'on en revient toujours à ces deux éléments de base, le pouvoir et le contrôle sur la vie de quelqu'un d'autre.
L'homme traîna finalement la femme jusqu'à sa voiture et l'emmena faire une dernière randonnée.
Il a arrêté la voiture, ouvert la porte du côté du passager et a poussé la femme dans un fossé. Il ne l'a pas tuée. Il lui a laissé la vie. Et lorsque l'aube s'est levée quelques heures plus tard, elle a été secourue et le FBI a ouvert une enquête suite à cet enlèvement.
Le FBI commença une longue chasse à l'homme. La femme d'Ocean City était la dernière d'une longue liste de victimes. Ces femmes avaient toutes été torturées et certaines d'entre elles avaient été assassinées. Mais il faudrait plusieurs années avant que l'enquête ne débloque. Parallèlement à cette enquête du FBI, les services secrets étaient sur la piste d'un faux monnayeur qui payait avec des billets de 20 dollars dans des centres commerciaux et des magasins du Midwest américain et de la côte Est.
Peu importe le service de police ou d'enquête, quel que soit son talent, il faut toujours un élément de chance et la coopération des citoyens. Dans ce cas-ci, nous avons eu l'aide d'une caissière vigilante. Elle a reconnu un client habituel sur un portrait robot. Elle a alerté le service de sécurité du centre commercial qui, à son tour, a alerté la police et peu après, le suspect a été arrêté.
L'homme s'appelait James Mitchell de Bardeleben. Les services secrets découvrirent rapidement que cet homme n'était pas que faussaire. Ils fouillèrent l'espace d'entreposage qu'il avait loué. Ils y découvrirent des liasses de faux billets. Mais, à leur grande surprise, ils découvrirent également toute une collection de photos et de cassettes audio. Cette découverte de 1983 allait enfin permettre au FBI de poursuivre son enquête. Robert Hazelwood était à l'époque agent pour le FBI et il avait dressé le profil psychologique du meurtrier. Il examina les articles découverts dans l'espace d'entreposage de Bardeleben. Les agents y avaient trouvé des milliers de photos de ses victimes. Parmi elles se trouvaient des photos et cassettes audio de la femme enlevée à Ocean City en 1979. Certaines des photos remontaient au début des années 60. Les agents découvrirent également ses outils de travail, des vêtements qui appartenaient à ses victimes, 10 armes à feu, des fausses cartes d'identité de la police, des cahiers de notes, des sous-vêtements tachés de sang et des bijoux. De Bardeleben utilisait 7 plaques d'immatriculation différentes pour échapper aux autorités. Le FBI découvrit également des notes manuscrites codées en référence à des crimes passés et à venir. Mais bien que les agents aient enfin découvert la cache de Bardeleben, ils étaient toujours confrontés à un problème. Le visage du tueur n'apparaissait jamais sur les photos des victimes. Afin de faire comparaître de Bardeleben pour ses nombreux viols et meurtres, les enquêteurs devaient prouver qu'il était bien l'homme des photos. Lorsque Peter Smerick travaillait pour le compte du FBI, sa spécialité était la photographie judiciaire. Les services secrets lui envoyèrent une série de photos prises par de Bardeleben pour qu'il les analyse. Sur plusieurs de ces photos, on pouvait voir un torse et des bras nus. Smerick concentra son attention sur les bras. Le meurtrier avait une série particulière de grains de beauté et de taches de rousseur. Smerick demanda au service secret de faire photographier de Bardeleben dans la même position que celle de l'homme qui apparaissait sur les photos. Son initiative fut couronnée de succès. Lorsque Smerick compara les photos prises par les services secrets à celles découvertes dans l'espace d'entreposage, il constata que la disposition des taches de rousseur était la même. C'était enfin la preuve que les enquêteurs attendaient.
Pendant toutes ces années où j'ai travaillé comme analyste du comportement des criminels, je n'ai jamais vu un aussi bon photographe prendre des photos de ses propres crimes et finir par être emprisonné à cause d'elles.
En 1984, de Bardeleben comparut devant les tribunaux et fut jugé coupable. Il purge une peine de prison à perpétuité dans un pénitencier du Texas.
À mon avis, de Bardeleben est l'un des plus dangereux criminels de la planète. Il a commis quantité de crimes pendant plusieurs années et dans plusieurs États américains sans jamais être arrêté. Cela le rendait très dangereux. Je crois d'ailleurs qu'il a commis beaucoup plus de crimes que nous le savons.
En exerçant un contrôle serré sur toutes les variables, les armes utilisées, l'endroit du crime et la victime elle-même, le tueur en série peut échapper à n'importe quel coup de filet et s'en tirer pendant des années sans avoir à se cacher. Tel fut le cas de John Wayne Gacy, un homme d'affaires prospère de la région de Chicago. Gacy était respecté, mais il cachait un horrible secret. En 1978, à Des Plaines, dans l'Illinois, on signala la disparition de Robert Peast, un adolescent de 15 ans. Un homme du nom de Gacy préparait une soumission pour la rénovation de la pharmacie où Peast travaillait. Le détective en chef Joseph Kozenczak, du service de police de Des Plaines, se rendit à sa résidence pour l'interroger. Gacy déclara ne pas connaître Peast. Mais les enquêteurs doutaient de la véracité de sa réponse. Ils avaient découvert que Gacy avait déjà été accusé d'abus sexuels sur un adolescent. Kozenczak décida de le faire surveiller. Au début, Gacy était coopératif, mais à mesure que Kozenczak poursuivait son enquête, il devint de plus en plus revêche.
Il avait le regard méchant. On pouvait sentir sa haine. Il ne se souciait pas de notre enquête. Il voulait seulement qu'on lui laisse la paix.
Gacy menaça d'intenter une poursuite en justice si la police continuait de le surveiller. Mais les agents persévérèrent car ils soupçonnaient Gacy de leur cacher quelque chose. Ils n'étaient cependant pas préparés à ce qu'ils allaient découvrir. En 1978, les policiers de Des Plaines surveillèrent John Wayne Gacy pendant plusieurs semaines. Puis vint enfin l'occasion de fouiller sa résidence. Ils y découvrirent un coupon de développement de photos qui appartenait à Robert Peast. Cette découverte impliquait directement Gacy dans la disparition du jeune homme. Une fouille plus exhaustive allait leur en révéler davantage. Le détective Kozenczak fut le premier à entrer dans la maison de Gacy.
J'étais l'une des premières personnes à arriver à la maison. Je suis entré par la porte arrière. La maison était sombre et sinistre. Tous les stores étaient fermés. Il y avait une atmosphère lugubre, inquiétante. Nous avions reçu certaines informations qui nous poussaient à croire que Gacy avait peut-être enterré des victimes sous sa maison.
Les policiers avaient interrogé l'ex-femme de Gacy, ses amis et anciens employés, et avaient appris que Gacy faisait des propositions sexuelles à ses employés, que certains d'entre eux avaient disparu et qu'il se dégageait une étrange odeur dans sa maison. Un de ses employés avait même suggéré que la police fouille sa cave. Après un interrogatoire très serré, Gacy reconnut avoir tué un de ses partenaires sexuels 4 ans plus tôt, soit en 1974. Il déclara qu'il était en situation de légitime défense. Il avait caché l'homme sous sa résidence. Gacy poursuivit ses aveux. Il avait assassiné plus de 30 jeunes hommes et garçons et avait caché plusieurs décors dans la cave de sa maison. Une fouille intensive fut organisée suite à ces déclarations. Les enquêteurs examinèrent la cave dans l'espoir de retrouver les victimes de Gacy. Ils y découvrirent 3 cadavres en décomposition et certaines parties d'autres corps. Ils poursuivirent leurs recherches. Comme ils savaient que d'autres corps avaient été cachés sous la maison, ils pratiquèrent des ouvertures partout dans le sol pour les retrouver. découvrir d'autres corps sous la salle à manger et le garage. Le sol sous la maison ressemblait à un champ de bataille jonché de squelettes. Suite à cette découverte, la police procéda à l'arrestation de Gacy pour meurtre.
Gacy croyait que la meilleure façon de ne pas se faire arrêter était de garder le contrôle sur ses victimes après leur mort. Il était un psychopathe sexuel. Il était convaincu que personne ne retrouverait jamais ses corps parce qu'il était plus intelligent que la police et plus intelligent que tout le monde.
En cachant ses victimes dans sa maison, Gacy gardait un contrôle complet sur elles, même mortes, et il savait que personne ne les trouverait à son insu. Une telle minutie dans sa façon de faire était le signe distinctif d'un meurtrier très méthodique.
Lorsque nous avons fouillé la maison de Gacy, tout dans cette affaire, tout indiquait qu'il était très méthodique, qu'il pensait et planifiait ses crimes dans les moindres détails avant de les mettre à exécution.
Gacy jetait aussi parfois ses victimes dans la rivière des Plaines. La police y découvrit 6 autres corps. L'un d'eux était Robert Peast. À la fin de l'enquête, les policiers avaient identifié les ossements de 33 victimes.
Robert Ressler était très intéressé par toute cette affaire, parce que le service d'études du comportement au FBI faisait une analyse approfondie des individus qui commettent des meurtres en série. Il voulait en savoir plus sur eux pour essayer de les comprendre. C'était un cas classique de meurtre en série.
Le but du service d'études du comportement, ou FBI, est de dresser le portrait type du tueur en série.
Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est la relation sexuelle que le meurtrier a avec la victime qui est importante pour lui. Mais en réalité, c'est tout son projet qui est important. Le processus de sélection, la surveillance, être seul à savoir. Je t'ai choisi comme prochaine victime et tu ne le sais pas. Et puis, il y a toute la planification jusqu'à l'enlèvement en tant que tel. Le tueur répète tout ça pendant des semaines, voire des mois avant de passer à l'action. Jusqu'à un certain point, l'activité sexuelle qui suit n'est qu'une conséquence de tout ce qui précède.
Chaque fois qu'il tuait, Gacy perfectionnait sa méthode, tirait la leçon de ses erreurs et améliorait ce qui avait fonctionné. Il attirait ses victimes dans un piège bien conçu en les distrayant avec des jeux, en les enivrant et en leur montrant des films pornographiques. À un moment donné, il avait à tel point confiance en lui qu'il avait jeté son dévolu sur un garçon de son propre quartier. Beaucoup de ses victimes se rendaient à la maison de Gacy dans l'espoir de décrocher un emploi. Il les rencontrait dans son garage. La pièce était insonorisée. Elle avait été conçue par Gacy et construite par sa société. La seule issue était une porte électrique. Si la victime ne s'y objectait pas, il lui montrait un tour de magie avec une paire de menottes truquées. Après lui avoir montré le dispositif, il persuadait sa victime de les mettre. Ensuite, il la défiait d'essayer le truc les mains derrière le dos. Si la victime acceptait, le piège se refermait sur elle. Gacy échangeait la paire de menottes truquées contre une vraie. Une fois immobilisée, la victime était à la merci de Gacy. Lui seul sait vraiment ce qui arrivait par la suite. Tout comme le tueur en série James Mitchell de Bardeleben, Gacy croyait qu'il avait brouillé toutes les pistes. Mais il avait conservé quelques souvenirs qui furent découverts lors de la fouille de sa maison et qui constituèrent des indices cruciaux, même si la police ne le réalisa pas tout de suite. Les enquêteurs avaient découvert des permis de conduire, des boucles de ceinture, des bagues et autres effets personnels. Ressler avisa les enquêteurs de l'importance de ces objets.
Nous avions découvert ces objets sans vraiment nous rendre compte de quoi il s'agissait. Robert est arrivé et nous a expliqué qu'une boucle de ceinture pouvait ne pas revêtir d'importance à nos yeux, mais que pour la personne qui avait commis le crime, elle était très importante. Elle permettait au tueur de revivre son crime au moment où il le voulait.
Les souvenirs étaient un rappel de ses crimes passés et alimentaient son désir d'en commettre de nouveaux.
Pour Gacy, c'était un symbole de ses réussites. C'était un rappel. Cela agrémentait ses fantasmes jusqu'à sa prochaine victime. Ce sont des trophées pour le tueur en série. Ils nourrissent ses fantasmes.
L'objet le plus intriguant découvert chez Gacy était une carte des États-Unis où il avait indiqué ses contrats de rénovation. Ressler est convaincu que Gacy n'a pas limité ses meurtres à la seule région de Chicago.
Il est logique de présumer que si Gacy le faisait à Chicago, il le faisait ailleurs aussi. C'est pourquoi je suis sûr que Gacy a tué plus que les 33 victimes que nous avons découvertes. Il en a tué probablement le double.
Les équipes d'experts légistes démantelèrent complètement la maison de Gacy et y recueillirent 27 cadavres. La police ne pourra jamais découvrir s'il avait tué d'autres victimes. Ressler interrogea Gacy de 1979 à 1989, alors que ce dernier était en prison. Il apprit d'ailleurs que le meurtrier avait grandi à seulement 4 pâtés de maison de chez lui, en banlieue de Chicago. Gacy se rappelait même avoir fait des livraisons de provisions chez la famille Ressler. Il lui décrivit en détail les pots de fleurs de sa mère. Mais Gacy avait aussi des souvenirs plus sombres. Il raconta la relation dysfonctionnelle qu'il avait eue avec son père. Ressler n'était pas étonné. Presque tous les tueurs en série qu'il a interrogés ont un passé semblable.
Je me suis enfui de la maison quand j'avais 19 ans, parce que je ne m'entendais pas avec mon père. Il était trop dominateur. J'étais bête et stupide, je ne faisais rien de bien. Alors j'ai décidé de partir. Je suis parti pendant 3 mois.
Pendant qu'il était en prison, Gacy peignit une toile qu'il envoya à Ressler. Elle le représentait déguisé en clown.
Lorsque j'étais déguisé en clown, c'est comme si je redevenais un enfant. C'était amusant d'être un clown parce que je pouvais être moi-même, me laisser aller et faire des folies. Quand on est un homme d'affaires, on doit garder un certain standing parce que les gens s'attendent à une image. Mais quand on est déguisé en clown, on peut faire le bouffon et s'amuser. C'est pour ça que j'aimais faire le clown.
La toile représente Gacy devant un bosquet de conifères. Il est entouré de ballons. Il y a une inscription derrière la toile qui dit qu'on récolte ce que l'on sème. Gacy a toujours refusé d'expliquer la signification de cette toile à quiconque. Ressler, quant à lui, croit que le tableau fait allusion aux autres meurtres qu'il aurait commis.
Il a dit qu'on peut faire bien des choses lorsqu'on est un clown parce que les gens nous voient comme un comique. Ils ignorent ce qu'il y a sous la couche de maquillage, ce qu'il y a sous le costume. Il m'a dit que les clowns peuvent tuer sans que personne ne s'en doute.
John Wayne Gacy mourut par injection le 10 mai 1994. La spécialité qui consiste à identifier les meurtriers grâce à leur comportement a vu le jour dans les années 70 et a permis d'identifier et d'arrêter bien des tueurs en série, notamment le fils de Sam, Ted Bundy, et Jeffrey Dahmer. Les crimes de ces monstres ont inspiré au public un mélange de fascination et de dégoût.
Les tueurs en série sont mus par leur besoin de contrôle, de domination, de discipline et d'autorité. ils ont une vision très déformée de leur relation avec les autres. Ils ne perçoivent pas les autres humains comme des personnes, mais bien comme des objets.
Robert Ressler croit que bien que les meurtres en série ne soient pas limités aux États-Unis, c'est le pays où ils ont connu la plus grande croissance depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La raison principale en serait que la culture américaine glorifie et encourage la violence.
Notre culture produit des crimes violents. Je dirais que 75% des tueurs en série sont américains. C'est très étrange, mais les meurtres en série font partie de notre identité, comme le baseball et la tarte aux pommes. C'est malheureux. C'est même tragique si l'on pense que dans ce domaine, les États-Unis ont fracassé tous les records.
Les chasseurs de meurtriers doivent toujours s'assurer de ne pas laisser les pensées criminelles de leur proie les empoisonner. Parce que celui qui contemple l'abîme doit prendre garde de ne pas y tomber. Pour Ressler, les chasseurs de meurtriers doivent faire des efforts tous les jours de leur vie pour conserver leur équilibre mental.
Je crois que j'ai réussi à conserver mon équilibre en m'isolant de l'horreur que je vois. Je commence ma journée à 8 heures et je la termine à 17 heures. Je retourne à ma vie normale. Je prends un verre, je regarde le journal télévisé du soir, je tombe ma pelouse. Je sais regarder les événements en perspective. Je suis au diapason avec la société.
L'aspect important du travail de Ressler est, à son avis, l'analyse et non l'aspect monstrueux du crime. Il observe, il analyse et il tire ses conclusions. Il n'existe pas de réponse facile ou rapide.
Le concept hollywoodien, c'est que l'enquêteur va résoudre le cas et tout le monde peut ensuite plier bagages et retourner à la maison. Mais le profil n'est qu'un des outils dont disposent les enquêteurs. Il leur apporte un nouvel aspect, une autre pièce du casse-tête. Et lorsqu'on les réunit tout ensemble, c'est parfois très efficace.
Ces experts explorent les régions les plus sombres de l'esprit humain. Ils y jettent une lumière crue afin de mieux le comprendre.
L'importance du profil psychologique, comme dans le cas de Richard Chase, tient au fait qu'il peut fournir un portrait aux policiers, une idée du type de sujet à rechercher. Il peut leur donner une image claire, sinon c'est inutile.
Ces monstres aux formes humaines croient qu'ils sont invulnérables, mais ils laissent des indices derrière eux. Chaque goutte de sang, chaque fragment de tissu ou d'ADN permet aux experts de retrouver leurs traces. Le profil psychologique est un autre outil qui permet aux chasseurs de meurtriers de comprendre l'esprit dérangé des tueurs en série. L'évolution de la science nous permettra peut-être un jour de ne plus avoir recours à ces spécialistes. Mais pour le moment, ils doivent continuer de regarder au fond de l'abîme.